Bonsoir et merci de votre accueil, là, c'est vraiment magnifique. Je crois que je vais rempiler dans l'université, au moins l'université des cafés, ça sera. Je m'engage, je vous ferai bien revenir. C'est tout à fait agréable. Et remercier Jean Bosco de son accueil également. Mais peut-être émettre une critique. En effet, m'invitant, m'accueillant tout à l'heure, il ne m'a pas demandé ma carte d'identité. Et ça m'a fortement surpris parce que j'aurais quand même pu le faire par la démonstration et par la preuve. Le mensonge, donc, puisqu'on entre là dans le thème du mensonge, lui démontrer que j'étais peut-être Jean-Pierre Rose, mais le sait-il. Et encore, la carte pouvait-elle être fausse, ce qui posait encore un autre problème. Vous voyez, jusqu'où ça peut nous conduire, cela. Donc, évoquer le problème du faux, c'est immédiatement entrer dans un jeu de menteur. Donc, menteur institutionnel, méridional, qui plus est, ce qui n'arrange rien dans ce domaine. Donc, je vais essayer ce soir de mentir convenablement pour vous permettre d'accéder à ce concept même qui est celui de faux, sans jargonner excessivement. Vous allez voir, il n'est pas utile de convoquer sémiologues et autres spécialistes qui sont intéressants dans ce qu'ils disent du faux, certes, mais peut-être de manière plus concrète, témoigner d'une expérience personnelle à travers différentes activités. Celle d'expert, celle de conservateur, j'ai été conservateur du musée, enseignant, ça touche peu le faux, sauf dans des problèmes de devoirs remis pour lesquels on observe quelquefois la main d'autrui, ça c'est encore autre chose. Et puis, aussi, la position de conservateur qui, malgré tout, vous confronte à l'existence des faux, mais sans exagérer non plus, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Donc, le plan de travail va être un peu celui-là, le faux vu par l'expert, le faux vu par le conservateur. Et puis peut-être un troisième point, pour rester sensible dans ce domaine-là, donc on peut aborder quelque peu la vie personnelle, c'est dire que j'ai une activité de plasticien qui m'amène précisément à créer dans le champ du faux, vous verrez de quelle façon, ce qui est paradoxal pour un expert et pour un conservateur passé. Ça, on verra comment ça fonctionne tout à l'heure. Alors peut-être quelques points de repère tout d'abord. Dans la position de l'expert, vous allez voir que ce sont des choses qui ont posé des problèmes majeurs aux experts. Y voyez-vous convenablement ? Je sais que l'image est un peu réduite. Donc je vous décrirai pas mal de choses et puis vous verrez, je tâcherai d'orienter mon discours vers des démonstrations un peu méridionales avec les mains, comme ça vous verrez mieux la forme des choses. Le document que je vous présente là, il est un peu à l'origine des grandes affaires de faux. On est à la fin du 19e siècle, on est en 1897, et le Louvre est très fier de présenter un objet d'orfèvrerie. Orfèvrerie de fouilles émanant d'une ville, Olbia, dans le sud de la Russie. Cet objet a été acquis à grand prix. On est le 1er avril 1897, ça ne s'invente pas. Et on va voir que cette fameuse pièce, qui est une tiare, c'est une coiffe en or. Comme toujours, comme tous ces objets en or, on parle d'or massif, mais il faut savoir ce qu'est l'objet en or massif dans le principe archéologique général. Et même dans l'utilisation de l'or, c'est rarement de l'or massif. C'est de l'or, oui, massif, oui, mais en feuilles permettant de le repousser. Donc il ne faut pas attendre à avoir une chose qui pèse 10 kg, même si elle est grande comme ça. Par contre, le travail de repousser est connu, on connaît ses techniques, on sait quelles traces laissent les outils, et on peut examiner l'objet avec une connaissance technique de la chose qui permet de porter un jugement déjà sur la manière dont il a été réalisé. Cet objet est acquis, il fait un peu la gloire du musée, la presse en parle. Et puis quelqu'un émet un doute. C'est un conservateur de Munich qui a un rôle d'expertise également. Vous savez, les conservateurs à l'étranger ont beaucoup plus de liberté que les conservateurs français. Il est interdit aux conservateurs français de se livrer à l'expertise, même d'être apparenté à un expert. Il y a un problème déontologique majeur. Quand j'ai voulu prendre l'activité d'expert auprès des cours d'appel, on m'a demandé immédiatement de cesser toute activité de conservateur. Ce n'est pas incompatible. Je pouvais continuer à donner des avis à mes collègues, mais en étant en dehors du corps professionnel. Par certains côtés, c'est normal. Par d'autres côtés, ça prive peut-être cette espèce de volonté un peu farouche d'isoler les camps. Ça prive les conservateurs de la possibilité d'être au cœur du marché et des combines du marché, on peut en parler librement, et de voir ce qui s'y passe, surtout de voir circuler les objets qui vont les intéresser. Et éventuellement de pouvoir les retenir avec le pouvoir qui peut être le leur. Ça, c'est notre problème. Donc, cette tiare dite de Saïta Farnès, le mot est superbe déjà, on est dans les mythes de l'Orient moyen, et elle est contestée par ce conservateur et expert de Munich qui dit ceci, écoutez-moi, dans l'iconographie, dans les choses représentées sur cette tiare, il y a des choses qui me troublent. D'abord, il y a des éléments qui sont, semblent être des éléments romains du IVe siècle dans les thèmes. D'autres paraissent relever d'un travail italien un peu plus tardif. Et enfin, j'ai des motifs qui, eux, sont carrément modernes, puisqu'ils viennent directement d'une céramique de Sèvres. Ce qui veut dire qu'au plus tôt, on était au XVIIIe siècle, dans ce type de contexte. Donc, voilà, un premier doute est semé, mais on dit, après tout, ça va être un remontage de différentes parties qui ont été conjuguées comme cela, tardivement, pour faire un objet. Jusqu'au jour où on voit apparaître le nom de l'orfèvre, Rutschumowski, qui a réalisé cet objet et l'a réalisé entièrement de ses mains, sauf que ce n'était pas un grand philologue dont les inscriptions qui sont portées sont un peu fantaisistes et ça amène à la suspicion. Et bien évidemment, le Louvre est bien obligé, après quelques jours de gloire et de triomphe, de retirer la tiare. Elle est toujours dans les collections, elle est dans les réserves. Hein. On est un peu aujourd'hui décomplexé par rapport à cette chose-là. Mais vous remarquerez une chose d'une manière générale, c'est que les musées étrangers, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Italie, Suisse même, ont eu, disons dans un passé récent, une vingtaine d'années à peu près, à cœur de présenter le problème du faux dans des expositions à caractère didactique pour l'éducation du public. Ça s'est fait, à grand renfort de catalogue, avec des choses importantes. Les musées français n'ont jamais voulu faire ça. Il y a une sorte de complexe d'infériorité qui consiste à dire nous, Français, nous n'avons pas de faux dans nos collections. Bien, il y en a, et obligatoirement. Mais la seule institution qui ait abordé clairement le problème du faux, c'est la Bibliothèque nationale, avec le cabinet des médailles, qui a présenté, il y a une dizaine d'années, une quinzaine à peu près, oui, une exposition sur les faux qu'elle possédait. Mais elle l'a fait avec un catalogue polycopié sur papier de foire, avec des moyens minuscules, parce que très certainement, l'institution elle-même devait rechigner un peu à présenter ça dans les attraits que l'on voit consacrés à Londres, à l'exposition Fakes, hein, qui présentait ça en avouant clairement, oui, nous avons des objets faux. Les objets faux, pourquoi y en a-t-il dans les collections publiques en France, comme ailleurs? Pour une raison simple, c'est que l'accroissement des collections publiques s'est fait en France à partir de quelques dépôts d'État qui constituaient les premiers éléments des collections dans les musées de province particulièrement. Il y a eu acquisition par donation, acquisition à titre gracieux. Il y avait des legs, il y avait des dons, et on recevait des œuvres d'art. On recevait des œuvres d'art très souvent des pans entiers de collections privées. Ça veut dire que quand vous êtes conservateur, soucieux du bien de votre collection, est-ce que vous allez vexer un donateur potentiel en lui disant « Monsieur, c'est bien, votre fragonard, ok, on le prend. Par contre, le Claude Lorrain qui est à côté, c'est un pastiche tardif, on ne le veut pas. » Non, on ne fait pas ça. On avale tout, puis on fait le tri. Et ce qui va aller dans les salles de présentation permanente, c'est le meilleur. Et dans les réserves, on met ce qui ne mérite pas. Alors il y a une hiérarchie dans les réserves. On va dire qu'on va avoir un purgatoire et un enfer. Et dans l'enfer vont ces fameux faux, très précisément, qui ont quelquefois une utilité. Parce que quand un élu vous demande une pièce de musée pour orner son bureau, vous avez à cœur de lui refiler, bien entendu, quelque chose d'apparemment valorisant, mais dont le caractère, je dirais, de faible valeur ne nuira pas s'il est volé dans des conditions de conservation qui ne sont pas celles d'un musée, c'est pas au bien public. Voilà, ça se passe comme ça, avec des faux. Donc l'histoire de cette affaire Ness, elle est éclairante. C'est le premier point. La deuxième image porte sur une peinture qui est un peu éclatante. En 1945, nous avons fait un pas de pratiquement un demi-siècle. En 1945, en Hollande, un personnage peintre, négociant en œuvre d'art, est inquiété, donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on réalise que ce monsieur a été intermédiaire dans des transactions importantes qui touchaient l'acquisition de chefs-d'œuvre de Vermeer par Göring et autres personnalités du gratin allemand de l'époque. On a les preuves de transactions, on a les papiers, on a les versements, tout, et voilà que le procès intenté à ce bonhomme va démarrer d'une manière tout à fait étonnante. Il a un système de défense qui est très particulier. Il dit, mais écoutez, vous me considérez comme un traître à ma patrie? Pas du tout. J'ai trompé les Allemands puisque ce que je leur ai vendu, ce sont des faux que j'ai fabriqués moi-même. Alors lui, mais monsieur, quand même, les Vermeers là en question. Abraham Bredius, qui est l'expert devant lequel tout le monde se couche et qui a vu ces tableaux, Abraham Bredius les a authentifiés. Et lui dit, mais je maintiens cela, et si vous le voulez, dans ma prison, eh bien, je vais réaliser quelque chose de semblable. Donnez-moi les moyens matériels de le faire, je vais réaliser quelque chose de semblable. Il explique un peu comment il faisait. Il achetait des tableaux du XVIIe siècle, contemporains de Vermeer, mais de peu d'importance, de petits maîtres. Il attaquait sommairement la couche picturale jusqu'à garder l'enduit et les craquelures qui sont sur l'enduit, et ensuite là-dessus, avec des pigments si possible compatibles avec ceux de l'époque, ce qui était une chose habile déjà pour son temps, il exécutait quelque chose dans la manière de Vermeer. Et pour éviter la comparaison stricte, il avait cette idée de génie, on savait par les archives que Vermeer avait peint des scènes religieuses, on n'en possédait pratiquement pas, sauf une œuvre de jeunesse, et il va donc révéler des œuvres religieuses de Vermeer. Bien évidemment, l'orgueil national est prêt à recevoir cela, et c'est d'autant plus parfaitement justifié que c'est une période où, les périodes de guerre, les œuvres s'enfouissent. Avant de s'enfouir, elles vont ressortir pour des translations, puis on ne les voit plus. Donc, à cette occasion-là, on dit, mais oui, Vermeer, les Vermeer peu connus, ont émergé. Et le malheureux mourra, pratiquement en 47, si je m'en souviens bien, sans avoir pu clairement faire la part des choses. Par contre, les experts entre eux, experts conservateurs, se bagarrent à mort. Il y a des tenants de l'authenticité des Vermeer. Bredius, lui, le malheureux, quand il a vu ces tableaux, c'était quelqu'un qui expertisait sur photographie. Il faut le faire. Photographie dans noir et blanc, qui plus est. C'est pas un mal, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et surtout, il était à demi-aveugle. Ce qui n'est pas une condition extrêmement favorable au fait de délivrer une expertise convenable. Donc, on en est là. Des réputations vont se défaire. Il va y avoir des suicides parmi les conservateurs. C'est vrai, c'est une réalité. Et cette histoire Van Meegeren s'enlise dans cette bipolarité qui consiste à dire une faction considère comme authentique ces œuvres-là. Et ce sont des Vermeer. Surtout qu'il y en avait deux qui avaient été acquis quand même par des musées hollandais. Et les autres disant, mais non, ce sont des falsifications. Par contre, on ne voit pas très bien comment il a pu faire, parce que la toile est intacte, la toile est d'époque, il n'y a pas de problème. Les pigments correspondent à ce que l'on sait des pigments, des lames pigmentaires de l'époque. Ce n'est pas compatible. Mais comment faisait-il pour que le vieillissement de la peinture, la dureté de la matière en particulier, vous savez, il y avait un vieux truc d'expert à cette époque-là, vous ne voyez pas un expert en peinture en 1940 sans qu'il ait dans le veston, comme les amateurs d'escargots, vous savez, une épingle fichée dans son revers. Et on sortait l'épingle et on piquait la surface du tableau. Et le crissement, il y avait l'oreille qui intervenait, c'était magnifique dans l'expertise, et la dureté dans la pénétration pouvait faire dire que la matière picturale avait déjà une certaine ancienneté, au moins dans la dureté supposée acquise réellement. Alors on a fait tous ces tests, bien entendu, et on voit que ça résiste parfaitement. Et la vérité, on l'aura en 73. En 73, dans une revue, qui est une revue de laboratoire tout à fait austère, à diffusion un peu confidentielle, deux chercheurs anglais publient un article, je traduis le titre sommairement, à propos de faux Vermeer et Peter de Hoogh par Van Meegeren. Ils disent ceci, voilà, on a des moyens d'investigation, maintenant, qui nous viennent du monde de la chimie, et des investigations physico-chimiques très précises, et on a la preuve que ce qui est le liant employé par Van Meegeren pour faire une matière dure, c'est une résine phénolformol. Vous connaissez peut-être l'araldite comme colle actuellement. Bon, c'est apparenté à ces colles-là. Ça faisait partie des premiers travaux d'ingénieurs avant même la Première Guerre mondiale, hein, ces lames de résine-là. Et lui avait eu accès à cela et il a mis cette résine dans son corps pictural. Elle s'est polymérisée et elle a donné rapidement, dans l'instant, pourrait-on dire. Vous connaissez la rapidité de prise d'araldite, ça a donné cette dureté. Pourquoi ne l'a-t-on pas dit auparavant? Parce que les moyens d'investigation n'étaient pas au point qu'on ne pouvait pas, au sein d'un liant, il faut savoir ce que c'est qu'un liant, s'il demeure toujours un secret Vermeer, il y en a un, techniquement, il se dégage progressivement une vérité à ce propos, mais s'il y a un secret Van Eyck, plus particulièrement, à propos de ce fameux secret des flamands, c'est parce que très précisément, on ne sait pas dans le liant ce qui intervient exactement. On sait que l'on a une formule qui est huile cicative plus X. X, on ne sait pas le nommer. Est-ce que c'est de l'ambre en solution? Est-ce que c'est une résine dure en solution? On ne peut pas le dire. Pour une raison simple, la couche picturale d'un Van Eyck, c'est enduit compris 1 mm. Dans ce millimètre, il y a eu des opérations de restauration multiples, des nettoyages qui ont bouleversé le liant d'origine. Et aucune instrumentation à ce jour, même la plus fine, même en microchimie, ne peut vous dire clairement quels sont les composants du liant de Van Eyck, parce que c'est trop ténu comme matière. On y viendra. Qu'apparaisse une instrumentation un peu sophistiquée, et le même phénomène que celui qui s'est produit pour Van Meegeren viendra là, hein, pour le fameux Van Eyck. Pour l'instant, ça flotte. Donc voilà notre bon. Voilà. Merci de me tendre la perche. Voilà. Parce que regardez l'image précédente. La dame. Est-ce que ce n'est pas Garbo auprès du Christ? Elle a un visage des années 30. C'est pas du tout un visage du 7e siècle. Et là, c'est une première leçon à tirer, c'est que nous avons, nous, une perception globale de l'art qui est le produit de notre culture. On a une subjectivité dans notre jugement, d'imprégnation visuelle, qui fait qu'il y a une manière de voir 1945, de voir Vermeer, exactement comme nous avons une manière 2008 de voir Vermeer. Et ça, on n'y peut rien. Très souvent, les faux se révèlent stylistiquement, avant même d'apparaître par la technique, stylistiquement, par le degré d'influence que peut avoir notre culture du moment. Et ça, c'est une belle leçon. Or, les faux étant très souvent le produit d'une mode, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a de faux, sauf cas exceptionnels qu'on évoquera tout à l'heure. Mais il n'y a de faux que lorsque l'intérêt du marché le veut. Il y a une demande, les faux apparaissent. Et puis dans 10 ans, le goût change, et à ce moment-là, on voit que ces faussaires abandonnent pour traiter d'autres spécialités qui sont à ce moment-là. Qui aurait imaginé un jour que les affiches de mai 68 en sérigraphie, qui était sur papier ordinaire, hein, un papier de foire rouge, bleu ou jaune, allait faire l'objet de faux. Elles sont devenues objet de marché. Il y a des faussaires qui, sur papier ancien d'affiches, ont fait des faux placards de mai 68, parce que le marché émergeait fortement et qu'il fallait répondre à cette demande. C'est constant, ça ne s'arrête pas. Quand arrivent par là-dessus des producteurs qui viennent de pays dans lesquels la culture plastique et la culture technique, en particulier dans le monde plastique, que ce soit sculpture, que ce soit céramique, que ce soit verre, que ce soit peinture de chevalet, est marquée du sceau de la tradition. Je pense à la Russie, je pense à l'Europe centrale, ou je pense à des pays comme la Chine, ou comme des pays d'Asie du Sud-Est. Eh bien, on a là des gens qui sont capables de faire des imitations qui sont totalement époustouflantes. J'ai vu, venant d'Europe centrale, des peintures à la manière de l'animalier des portes, hein, qui était le peintre du roi pour les animaux au XVIIIe siècle. Des animaux en chasse, avec des natures mortes au faisan au premier plan. Splendides, d'une main 18e incontestable. Sauf qu'elles étaient faites sur une toile qui avait 2 ans d'existence. Dieu merci. Les antiquaires qui proposaient ça dans un salon avaient un discours qui était étonnant. Pour l'expert, c'était des toiles de décoration. Mais dès qu'un client passait par là, c'était 18e, mais d'une main anonyme, très proche de des portes. Voilà. Il faut avoir fait l'expertise dans le salon. Je me suis plié à cet exercice pendant des années, sur Toulouse, sur Rouen, au Ranelagh, à Paris, pour voir un peu comment ça fonctionnait, parce que j'avais la certitude d'y apprendre beaucoup. Parce que quand, dans un milieu concentré, vous voyez circuler en une semaine des centaines, sinon des milliers de pièces qui vont faire l'objet de transactions et sur lesquelles vous devez vous prononcer rapidement, c'est éminemment formateur. Vous ne pouvez pas vous permettre une erreur, vous êtes responsable pendant 30 ans de vos dires, hein, dans le droit français. Le droit français a ce de particulier, c'est qu'il vous permet de vous déclarer expert du jour au lendemain. Demain matin, vous avez envie de faire de l'expertise, vous faites faire une belle carte de visite, vous remplissez vos devoirs d'inscription sociale et auprès des impôts, et vous mettez expert agréé. Par qui? Ça, c'est autre chose. Ça viendra plus tard. Mais expert agréé, ça fait très bien. Et rien ne vous empêche d'émettre des expertises. Sauf que la loi vous rattrape en vous mettant dans l'obligation de responsabilité pour vous et pour vos héritiers. Je veux dire par là que si vous êtes un expert un peu flottant, un peu douteux, surtout, arrangez votre succession parce que vos héritiers seraient, pendant la période trentenaire, responsables des conséquences matérielles de votre expertise. Ce qui est redoutable. Très honnêtement, 30 ans, c'est trop, pour une raison simple. Ce que je disais tout à l'heure du cas Van Meegeren, qui n'a pu être levé que par l'expertise scientifique, parce que le moyen technique apparaissait, c'est imparable. Vous ne pouvez pas avoir, si vous n'avez pas l'instrumentation, le diagnostic qui sera porté par quelqu'un qui, dans 30 ans, en disposera. La loi, théoriquement, prévoit que dans l'obligation de moyens, il n'y a pas une obligation d'anticipation. On va en parler comme ça, heureusement. Donc, voilà la situation actuellement. Vous pouvez être expert, et Dieu merci. Quel garde-fou ? L'État a créé des zones d'expertise, experts dans le domaine de l'automobile, par exemple. Le titre est protégé par l'État. Experts dans le foncier rural, c'est un titre qui est protégé par l'État. En matière d'œuvres d'art, ils n'ont surtout pas voulu aller mettre le nez là-dedans, parce que c'est épouvantable. Mais par contre, il y a quand même des experts auprès des cours d'appel, de la cour de cassation, et auprès des douanes. Donc j'ai fait ce circuit-là, parce que ça offre plus de garanties que d'autres. Non, c'est une question de degré d'honorabilité, on va mettre ça entre guillemets, vraiment, hein, qui fait que vous connaissez un tel, le procureur, telle personne, et qu'au bout du compte, on dit, oui, il est très bien, mon Dieu qu'il est très bien. Et puis on retrouve la personne 4 ans plus tard, dans une affaire de faux ivoire. J'aurai des exemples comme ça à vous citer. Je vais en donner un rapide, je ne veux pas trop céder à l'anecdote, mais vous allez voir. Je suis convoqué à la demande du conservateur, Madame Valaison, qui était conservateur du musée Rigaud à Perpignan. Elle m'a dit, il faudrait que vous voyiez, chez une personnalité perpignanaise, un beau tableau, on dit que c'est un Botticelli. On n'était pas dans le sixième dessous. Déjà, je voyais mal ma compétence vis-à-vis de Botticelli, c'est affaire de spécialiste, vraiment. Mais peut-être avoir une compétence technique permettant de dire, c'est une œuvre d'époque ou non, déjà matériellement. Au moins, aller dégager ce terrain-là, et ensuite redonner le cadeau aux spécialistes qui vont faire remonter la recherche de manière plus précise. J'y vais. On me reçoit, fort belle maison, et on me dit, monsieur, que pensez-vous du Botticelli ? Je demande à le voir. Il est devant vous. Au-dessus de la cheminée, il y avait une toile de chapelle d'un peintre haillon anonyme post-caravagesque du milieu du 7e siècle, qui avait dû être une prise de guerre napoléonienne rapportée par quelques maréchals qui avaient la vue un peu courte. Hein, et voilà, c'était tout. C'était un joli, hein, soyons aimables. C'est le soir. Voilà. Mais c'était affreux, c'est surtout indigne. Et que quelqu'un ait pu mettre ça. Alors, j'étais jeune expert à ce moment-là. Et j'émets une opinion. J'ai dit, écoutez, il me semblerait que c'est plutôt quelque chose qui est un peu tardif et qui appartiendrait. Alors on y va toujours comme ça, vous savez, très progressivement, parce que l'expert qui annonce une bonne nouvelle, on le reçoit vraiment à bras ouverts, et à déjeuner et tout. Et par contre, l'autre position a tendance à rappeler certains porteurs de mauvaises nouvelles dans l'Antiquité dont on trancherait volontiers la tête. C'est un peu dans cet ordre-là que ça se situe. En tout cas, vous repartez, on ne vous fait pas manger, et on ne vous fait pas vos frais de déplacement. C'est épouvantable. Et là, le monsieur a une réaction super, il me dit, mais monsieur X, qui lui, a tel âge, a authentifié le tableau. On mettait en avant l'âge, et puis monsieur X, qui était expert auprès d'une cour d'appel. Voilà, c'est pour ça que je cite son cas. Et je demande d'avoir le document, puisqu'il a fait une expertise. Voyons le document. J'ai le document en main. Il s'agit d'une œuvre authentique de Botticelli. Oh là là, mon Dieu, c'est un Botticelli tout court. Sans date de naissance ou de décès, sans lieu de naissance ou de décès. Ça pourrait être ambigu, il y a des homonymies moins célèbres, mais bon, passe. Apparemment, vu le prix d'estimation, c'était pas un anonyme. En même temps, c'était pas du tout le prix qu'aurait atteint un Botticelli sur le marché, réellement. C'était un prix entre deux. Mais qui, vous allez voir, respectait bien les intérêts de l'expert. Parce que, puisqu'on m'avait donné le document à lire, j'ai tout lu. C'est-à-dire le papier qui était agrafé au dos et qui était la note d'honoraire de l'expert en question. Il avait appliqué un 5% tout à fait agréable à une somme, on en parlait en francs, c'était 5 millions de francs, ce qui lui faisait 250 000 francs d'honoraire pour avoir vu le tableau et dit c'est un Botticelli, sans vérification autre. Voilà l'expertise. Voilà. Donc je ne suis pas fait insulter, mais en fait ça a été très froid. On a dit à Marie-Claude Valaison, qui heureusement est une amie, on lui a dit, vous savez, votre expert, il ne voit rien. Il n'a pas su voir ce que ses aînés ont vu. Voilà. Ma seule revanche a été que 4 ans plus tard, l'expert en question se faisait attraper dans une affaire d'ivoire bidon qu'il avait garanti pour une somme époustouflante auprès d'un marchand de viande en gros qui avait de l'argent à placer, et avait d'autant plus d'argent à placer que c'était en liquide. Donc il y a eu procès. bien entendu. L'expert est allé faire un petit séjour, mais bref, il était, voilà, il était connu. D'autant plus qu'il était expert d'une cour d'appel. Ça avait fait très sérieux de laisser trop longtemps à proximité. Il aurait pu faire retentir quelques casseroles qui traînaient par là et dont on aurait entendu le son. Et surtout... elles ne sont pas, gravissimes. C'est fonction des circonstances et c'est fonction surtout du degré de, j'allais dire, de ténacité qui est celui de l'adversaire et de son avocat. Sinon, en général, on le voit très bien, surtout dans un cas semblable où la magistrature, même si on est officier ministériel, on va le dire comme ça, auxiliaire, temporaire. Il faut bien savoir une chose, surtout, c'est qu'un expert auprès d'une cour d'appel ne doit pas se prévaloir ce titre, théoriquement. On ne devrait même pas le mettre sur sa carte de visite. Tout simplement parce que l'expert est en latence d'activité et qu'il est missionné pour une durée précise. On lui dit, monsieur, voilà, vous êtes commis pour une mission d'expertise, elle va durer de telle date à telle date, vous remettrez vos conclusions à telle date, point là, vous pouvez avoir des pouvoirs, qui sont des auxiliaires de justice, et demander éventuellement l'aide de la force publique pour pénétrer dans un lieu, ça semble. Mais en dehors de ça, vous revenez un citoyen lambda. Sauf que ce que vous allez émettre après va avoir des conséquences, les conséquences que j'évoquais tout à l'heure. Alors là, c'est plus amusant encore, parce que le monsieur qui était vraiment très acharné, qui avait fait émettre l'expert dans le trou, s'était bien entendu engagé à dire quel avait été son préjudice. Et bien entendu, en liquide, vous imaginez bien que les impôts qui ont vu cette superbe somme émerger comme cela, hein, qui dépassait le million pour des ivoires, ça lui a coûté 4 fois ce que lui aurait coûté une vraie collection. C'est là. Donc, merci, moi ça m'a rassuré par rapport à cet expert qui devenait gênant dans le territoire. Mais c'est comme ça. Est-ce que je suis un expert riche? Non. Si je continue à enseigner, à faire des choses comme ça, c'est que ce n'était pas une situation de rapport très précis que je cherchais là-dedans. Je m'amusais beaucoup, c'est vrai que je me suis beaucoup amusé dans cette activité. J'ai essayé de le faire le plus honnêtement possible. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai envoyé une dame qui vient me trouver à l'occasion d'un salon qui a un cabas en toile cirée de ceux qu'on utilise pour aller faire le marché le matin et qui vous dit, voilà, écoutez, on voudrait acheter une petite maison. On a des choses enveloppées dans le journal, là, et on ne sait pas ce que c'est. Notre père l'avait acheté. C'était dans l'Afrique du Nord, en Algérie, plus précisément. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est? Et j'ouvre le sac, j'ouvre le papier, et je vois 3 Fujita. 3 Fujita superbes. Fujita était allé à Alger, avait une galerie lui avait demandé de faire plusieurs expositions, il avait vendu. Le père ou le grand-père de ces personnes avaient acheté ces Fujita-là. Et je leur ai dit immédiatement, vous avez de quoi acheter la villa, il n'y a pas de problème. C'est voilà, voilà. Et à ce moment-là, vous engagez par écrit. C'est-à-dire par là que vous allez remettre ces personnes dans un bon circuit. Vous allez leur dire, voilà, par écrit, ça vaut tant. Hein, ça vaut telle somme. Pas moins. Quelqu'un qui vous ferait une proposition inférieure serait malhonnête. Par contre, ça peut valoir plus. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est avec un prix de réserve, d'aller voir un commissaire-priseur d'une étude importante. De dire, voilà, j'ai un bulletin d'expert qui dit que ça vaut tant et je voudrais le vendre. Il n'y a pas de surprise. Vous avez un prix plancher qui est tout à fait honnête. Ça ne partira pas en deçà de ce prix-là. Vous êtes garanti. Ça ne peut que monter. S'il y a bagarre entre amateurs, vous serez gagnant. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il y a l'autre attitude qui consiste à dire, je connais un tel, je vais le faire acheter en disant que c'est un tableau à la manière de choses sans importance, et on partagera le bénéfice. Ça peut être une position aussi. Hein. C'est un choix. Alors, normalement, oui. D'une part, nature morte 17e, peinture maniériste, plutôt peinture maniériste des écoles du Nord, et après, la jolie et bonne petite peinture méridionale, celle du département de l'Hérault, autour de 1900. Celle qui était joyeuse, aimable, un peu peinture de la Côte d'Azur, avec des plages, des gens heureux, c'est une peinture sans grandes conséquences économiques, mais qui est riche en rencontres sensibles. Ça fait plaisir. C'est vrai. Alors, von Mayuren, vous le voyez, et l'image suivante. Nous sommes en 83, là, et le Crédit Municipal de Paris fait, comme il le fait régulièrement, vous savez ce que c'est le monde de piété, le Crédit Municipal, chez ma tante, hein. On va gager des œuvres d'art ou des objets pour obtenir une contrepartie qui n'est jamais l'équivalent de la valeur d'estimation, bien entendu, il y a une mesure de garantie là-dedans. Et cette vente du Crédit Municipal, elle va se faire parce que c'est une réalisation de gages. Gages importants, hein, ça a porté sur des sommes énormes consenties à un prince italien. Ce prince italien avait gagé une collection importante d'œuvres italiennes allant du XVe siècle au XVIIIe siècle. Vous avez la partie du XVIIIe siècle là. Ça ressemble tout à fait à un canaletto, c'est très beau. C'est très beau, c'est surtout à l'ancienne. C'est parfaitement fait. Et donc, les gens du Crédit Municipal sont tout à fait heureux de faire ça. Ils disent, on va vendre cette collection, on va récupérer largement l'argent qu'on a prêté. On convoque un expert qui dit oui. Et on fait imprimer un catalogue. Le catalogue part, et aussitôt, je ne sais pas, 15 jours après le départ des catalogues vers les spécialistes, tout de suite il y a une position de repris en disant, ne considérez plus le catalogue comme valable, on en fait éditer un autre, et on va mettre ce qui nous reste au pilon, sans dire plus. Et il apparaît à ce moment-là que les œuvres qui ont été présentées sur ce catalogue ne sont pas du tout des œuvres du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, mais sont toutes de jolies toiles à la manière d'eux, sur support ancien. Les cadres sont parfaitement authentiques, il n'y a pas de difficulté au niveau des cadres, enfin, c'est bien que quelquefois le cadre puisse valoir plus que la peinture, mais là ce n'était pas le cas. Donc il y a des cadres d'époque. Par contre, la peinture est toute de la même époque, elle appartient au travail de plusieurs faussaires, aux copistes au moins, au début du XXe siècle, charnière 19e, 20e siècle. Et voilà ce qui se passait. Dans toutes les bonnes personnes de la haute société parisienne qui avaient servi d'intermédiaire pour présenter aux responsables du Crédit Municipal et cautionner le prêt disparaissent dans l'ombre et la vente se tient. Et la vente se tient de manière curieuse, c'est-à-dire que vaut une peinture à la manière de Canaletto lorsqu'on sait pertinemment qu'elle est une peinture à la manière de Canaletto, tardive, mais qu'elle a de belles qualités plastiques. Ce sont des choses qui sont arrachées, primitives, 17e et 18e confondues, entre, on en parlait en francs, 40 000 francs et 80 000 francs de l'époque, ce qui est fort joli. Le problème est qu'à aucun moment, on n'a stigmatisé d'une manière quelconque le fait que ces choses-là étaient des copies. Au mieux des copies, sinon des falsifications. Ce qui veut dire que c'est reparti vers des marchands, c'est reparti vers des collections privées. Quel sera leur sort dans une génération ou deux générations ou même avant? On les verra réapparaître. Elles sont suffisamment troublantes par leur matérialité et leur qualité plastique pour prêter à confusion, mais la loi française ne permet pas cela. Heureusement, dans certains cas. Hein. Parce que quand vous avez affaire à quelqu'un comme Vlaminck, par exemple, qui, face à un juge, ne sait pas clairement dire si la toile est de lui ou non, ça pose un problème. Est-ce qu'on la détruit ou est-ce qu'on la détruit pas ? Il faut vraiment être certain de la chose ou ne pas faire comme cet amateur qui, lui, grand collectionneur anglais, avait chez lui un très beau Rembrandt et lit un jour dans une publication qui n'était pas une publication de vulgarisation, qui était une publication sérieuse, que Rembrandt n'avait jamais peint sur panneau d'acajou. Et donc il examine son tableau, il savait qu'il était sur panneau d'acajou et de rage, il le prend sur ses genoux, il le brise et le met dans sa cheminée. Et on sait aujourd'hui que Rembrandt, parce qu'il était dans une ville portuaire, très précisément, et qu'il avait des liens avec des marchands, a pu accéder à de l'acajou, qui avait été introduit, peut-être à dose infinitimale en tant que bois, mais qui avait fait l'objet de panneaux. On a quelques panneaux comme ça qui sont sur acajou. Enfin, ça, c'est, dans l'expertise personnelle, surtout, sauf compétence particulière, ne vous y livrez pas. Alors l'histoire a été immorale, pour moi, elle est immorale. Que ça reparte sans être stigmatisé de manière quelconque, une marque, il faudrait dire reproduction, je ne sais pas. À ce propos, depuis mars 1981, est en application un décret qui précise que toute copie manuelle, mécanique, photomécanique, ou de quelque autre moyen que ce soit, d'une œuvre ou d'un objet d'art qui a été réalisé comme cela, dans un esprit d'époque si possible, doit porter obligatoirement de manière visible et indélébile la mention reproduction. Donc on est à l'abri, théoriquement. Puisque toute personne qui crée un objet à l'imitation d'un autre doit légalement porter la mention reproduction. Alors, hélas, ce n'est pas rétroactif, ou heureusement pour certains, et d'autre part, les applications pratiques. Toutes les choses, je vais parler vulgairement bidon, que j'ai pu rencontrer depuis 81, ne portaient jamais cette marque-là. On avait un très beau monsieur, médaillé, décoré, portant beau, d'un bel âge, qu'on cherchait à coincer. Là, c'était le service de répression des vols des œuvres d'art, qui est un département faux en même temps. Et on cherchait à coincer ce bonhomme depuis des années parce qu'il produisait des marqués superbes. Il produisait également des Henri Laurence superbes. À telle enseigne que certains tableaux avaient figuré dans des rétrospectives. Il était un faussaire, bon, spécialisé, ce sont les meilleurs, parce qu'ils finissent par avoir, avec la pratique, une main qui est d'une spontanéité remarquable. Et on n'a jamais pu l'attraper. On allait dans son atelier, on voyait des toiles, mais rien n'interdit de copier une œuvre. Sauf que maintenant, il serait dans l'obligation de mentionner reproduction. Mais vous n'avez pas mentionné reproduction. Mais monsieur, ce n'est pas terminé. C'est imparable. Et pourtant, tout ce qui était vendu venant de sa main portait une signature. Eh bien, après les heures de fermeture, dans les galeries qui étaient dépositaires de ses travaux, il allait signer. Après qu'on ait refermé toutes les portes et que personne ne voit l'acte. On n'a jamais pu le prendre sur le fait, et c'est regrettable, parce qu'on aurait bien aimé connaître ces techniques. Ce sont souvent des personnes extrêmement cultivées, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de meilleur lecteur des publications scientifiques que les faussaires de haut niveau. C'est une bagarre, par technologie intermédiaire. Et donc, vous avez trouvé telle parade, vous avez trouvé l'ultraviolet? Très bien, je trouve un vernis anti-UV. Voilà, ça vous va? Bon, vous avez trouvé tel procédé? On va mettre un voile de sel de plomb, comme ça, la radiographie sera incertaine. Et c'est constant. On a une certitude quand même, qui est la suivante, c'est que si on met en œuvre les moyens scientifiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, en matière de peinture ancienne, je dirais, antérieure à 1900. On a une certitude, c'est que par le laboratoire, on fera parler l'œuvre, qu'inévitablement, tout ou certaines choses diront ce n'est pas d'époque. Alors, il faut bien faire attention à ce sur quoi porte l'investigation, parce que les restaurations existent. Les restaurations peuvent être tardives. Si vous faites un sondage d'une partie restaurée, vous trouverez des matériaux contemporains, les nôtres. Donc, c'est déjà faire des prélèvements. C'est déjà redoutable. En tout cas, avoir des investigations non destructives dans ces parties-là, qui soient des parties authentiques. Voilà ce que l'on veut avoir, et de manière certaine. Donc, on sait tout faire parler. Les Américains ont mis au point une technique qui permet actuellement de faire parler le blanc de plomb utilisé dans les peintures. Ce beau blanc qu'utilisait Vermeer, qu'utilisait Rembrandt, est un sel de plomb, un sel métallique. On sait aujourd'hui dire quelle a été la date de fabrication de ce blanc de plomb, et même vous dire de quelle mine, de quel gisement venait le plomb qui a servi à fabriquer le sel métallique. Donc on a avancé de manière considérable, oui.
Vous venez de dire quelque chose d'important, parce que en fait, on fait sans arrêt du faux, des faussaires en faisant de la restauration.
Bien sûr.
C'est quand même un paradoxe que quelqu'un qui est un véritable artiste et qui fait des choses qui sont faux. Mais s'il le fait parce qu'il restaure une œuvre, il n'est plus
répréhensible. Voilà.
C'est quand même en soi, et c'est quand même, s'il n'y a pas de restauration, effectivement, il y a beaucoup de...
Alors, très précisément, j'ai tenté de répondre à cette question dans un article pour le catalogue de la Fondation Cartier. La Fondation Cartier avait eu une belle exposition qui s'intitulait « Vraiment faux ». Parce que le faux, pour la maison Cartier, vous le savez, c'est un problème économique grave. Voilà. Donc, ils avaient pris le concept de faux de manière large, et il voulait traiter tous les aspects, et en particulier savoir à partir de quel degré l'œuvre perd son caractère original et devient un faux, entre guillemets, parce que la restauration est excessive. Ça peut presque se calculer en pourcentage d'étendue des restaurations. C'est-à-dire qu'il va y avoir des qualificatifs. Si on vous dit restauration d'usage, restauration d'usage sont des interventions de petits traitements qui sont d'extension minimale et surtout de profondeur minimale, d'importance minimale. Mais si on commence à parler de restauration importante, voire abusive, là on entre dans un champ où, effectivement, c'est répréhensible. Et ça doit être décrit, parce que l'incidence économique, et j'ai toujours insisté là-dessus dans les expertises, l'incidence économique du degré de restauration n'est pas nulle, bien au contraire. Et de plus en plus, la jurisprudence va vers cela. Considérer qu'un cas de non-présentation des restaurations sur une œuvre par le marchand peut être une raison d'annulation du marché. Et plusieurs fois, j'ai conduit des personnes qui me le demandaient, comme ça, à l'action judiciaire en disant, en faisant des rapports qu'on appelle des constats d'État. On va dire, voilà, là-dessus, il y a tant de restaurations, qu'est-ce que vous en pensez? Quand un ami vient vous trouver un dimanche soir en vous disant, je reviens de Paris, j'ai acheté un Hollandais, il faudrait que tu le vois, oh, je ne veux pas attendre, tu peux attendre jusqu'à demain matin. Oui, bon, c'est très bien, viens, on va le regarder. Mettez le tableau sur un chevalet, vous commencez à mettre en place vos lampes ultraviolets, et vous observez la fluorescence établie. Et là, vous voyez que 80% du tableau, 80% de la surface est constituée de repeints. Si vous allez lui dire, écoute, tu as acheté un joli travail de restaurateur. Voilà. Est-ce que ça correspond au prix que tu as payé? Question. Hein, c'est la question effectivement que je lui ai posée ce jour-là. Eh bien non.
Et comment s'appelle cette charte qui limite les restaurations excessives dans les fresques, par exemple?
Oui. Ça s'appelle un vœu pieux.
Oui. Il y a une charte, non, c'est la charte de...
Oui, maman, il y a une charte de déontologie qui demande aux restaurateurs, mais ils ne sont pas tous inscrits, ils ne souscrivent pas tous à cette charte. Donc on ne peut pas savoir clairement. Certains vont adhérer à cela, d'autres non, certains la respectent, d'autres non. Donc on ne peut pas se fier à ces critères-là, hélas. Il y aurait un caractère strictement obligatoire, non. Mais dans le cas d'un monument, on a plusieurs personnes présentes là-dedans. On va avoir des responsables qui sont au niveau des ABF, des conservateurs, qui vont déterminer le degré de restauration. Ils ont d'autant plus intérêt à déterminer le degré de restauration qu'eux-mêmes vont être rétribués sur un pourcentage, sur le montant des travaux. Vous voyez dans quelle ambiguïté on peut se situer là-dedans. Donc ce n'est jamais très simple et on ne parvient pas toujours à la vérité dans ce domaine-là.
Juste, je me permets d'intervenir. C'est pas marrant, mais il faudrait que vous preniez un micro quand vous posez une question, parce que on enregistre la conférence là, et puis si on veut entendre les questions, après c'est mis en ligne, et quand on écoute sur Internet la conférence, on n'a pas les questions, donc c'est un peu gênant, quoi. Donc je vais, si vous demandez le micro, je vous l'envoie, quoi.
Non, on parlait de... La déontologie, à propos de l'étendue des restaurations et des limitations que peut s'imposer un restaurateur.
Non, mais...
Ça me coupe mes moyens.
Non. Non. J'interviens en tant qu'enseignant en Avignon, un centre qui a été créé par la Caisse des Monuments Historiques, qui s'appelle Centre de Formation à la Réhabilitation des Monuments, où on forme des personnels des bâtiments de France, des personnels techniques. Et on se trouve confronté à ces contrôles-là, très précisément. La situation de la restauration en France est assez ambiguë. Excepté l'IFROI, les Français Restauration des œuvres d'art, il n'y a pas de formation officielle. Il y a quelques facultés qui vont délivrer des formations spécifiques dans le domaine de la sculpture, dans le domaine de la peinture de chevalet, comme celle-là. Peinture murale, c'est abordé de manière imparfaite. Tous les restaurateurs français ont pratiquement suivi la formation de Rome, de l'ICROM, où ils vont se former pendant pas tout à fait une année, mais Rome est tellement riche en chantier de restauration et constamment qu'ils ont des applications qui sont extrêmement pratiques là. Et on est toujours confronté à ce degré qui n'est pas En plus, ça réglé au plan international. C'est-à-dire que la position des Italiens est beaucoup plus laxiste par rapport à la nôtre. Ils toléreraient des points d'intervention. Tout en étant les théoriciens de la chose, ils sont en même temps un peu larges. Mais l'abondance de leur patrimoine leur permet de commettre certaines erreurs coupables. Hein. On va en parler comme ça. Oui ? Pardon.
Non, c'est simplement pour dire que avec cette réflexion là sur le degré de restauration, on frôle un paradoxe très ancien, hein, qui est celui du bateau de Thésée, les anciens appelaient ça, ou on appellerait aussi le couteau de Jeannot, hein, le bateau de Thésée. Une fois qu'on a changé toutes les pièces, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée ou le couteau de Jeannot, une fois qu'on a changé la lame et après, qu'on a changé le manche, est-ce que c'est encore le bateau de le couteau de Jeannot? Voilà.
Mais c'est assez peu dans notre culture. Si je compare avec l'Asie du Sud-Est, c'est complètement différent. J'ai été en mission au Laos pendant quelques années, en mission technique. On a des architectures bois qui peuvent remonter au XVIIe siècle. La morphologie est 17e, mais chaque pièce a été, au cours des siècles, remplacée à l'identique, donc vous ne savez pas. Vous savez très bien que matériellement, l'édifice n'est plus un édifice d'époque, mais que sa morphologie a été strictement respectée, donc il garde toujours sa validité de monument. En France, ça serait considéré comme tout à fait condamnable. On a beaucoup dérestauré en matière de monuments historiques. Saint-Cernin à Toulouse a été peut-être le plus bel exemple de ce qu'on a pu faire. La cité de Carcassonne, avec sa vision toit d'ardoise, qui était, alors que là, la couverture était de tuiles de tuiles de terre, hein, était une vision romantique de la chose.
Vézelay chez nous ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, bon, rendons justice à Viollet-le-Duc quand même, qui avait une théorie, qui était que l'on pouvait restaurer l'édifice pour aboutir à une forme qui pouvait n'avoir jamais existé. C'est sa formule. Bon, il a commis quelques erreurs. Certaines profondes, d'autres plus légères. Sur Pierrefonds, on lui pardonnera. C'est une fantaisie de Second Empire. Donc, on va le voir comme ça. Mais il a eu le mérite, par son action, en faisant renforcer les structures, en faisant traiter les parties porteuses et fondamentales, de permettre que ça survive jusqu'à nous. Je ne suis pas certain que si l'attention n'avait pas été portée là-dessus, ça serait encore en état. Hein. Ça, c'est, voilà. Donc, soyons aimables avec la mémoire de Viollet-le-Duc, tout en reconnaissant ses erreurs, et surtout celles de ses disciples, hein, qui ont peut-être été un peu plus sévères là-dedans. Alors...
Et la copie, je vais essayer de parler plus fort. Non, ça ne marche pas. Mais ça ne marche
pas si tu parles pas. Allez, prenez le micro.
Et la copie poussée à l'extrême et de manière systématique peut donner naissance à un nouveau style. Quand on parle de néo-gothique, par exemple, c'est venu en copiant du gothique et c'est devenu un style à part entière.
Mais il est merveilleux, je reviendrai l'enchaînement. Merci. Alors, voilà. Problème fondamental. Bien s'imaginer que le statut de l'œuvre d'art répond à des dénominations extrêmement précises. Un plasticien crée une œuvre. Il y a une conception, une première pensée qui peut être dessinée. Il peut y avoir des formes plus élaborées, plus picturales, quand on a, pour ne parler qu'un tableau, quand on approche du tableau. Bien. Il va y avoir une forme qui naît. C'est une conception personnelle de voir une représentation de la Vierge, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Elle plaît. Il y a des éléments novateurs, il y a des éléments séducteurs là-dedans. Elle correspond au goût du temps. Elle va être admirée. Vous êtes souverain, local, dans une sorte de mosaïque d'État que peut être l'Italie à cette époque-là. Vous pouvez être dans un statut multiple. Et vous avez donc à recevoir des personnes de haut rang, parfois supérieurs au vôtre. Vous avez ce tableau-là qui est admiré par la personne qui vous rend visite. Vous avez deux solutions. Ou vous décrochez le tableau et vous le donnez à la personne, elle repart avec, c'est un hommage considérable. Vous demandez au peintre de se répéter lui-même. Et à ce moment-là, vous gardez le tableau. Par contre, vous allez faire hommage un mois plus tard au souverain qui est passé. C'est ce qu'on appellera une réplique. Voilà. Hein, donc, on va parler de prototype, hein, pour la première forme, d'original. Hein, c'est encore mieux. Et ensuite, on va parler de réplique. La réplique, elle peut être à l'identique, c'est-à-dire totalement semblable. On peut avoir des répliques avec variantes. Vous voyez comment la terminologie évolue. Elle peut être entièrement autographe, c'est-à-dire entièrement de la main du maître. Elle peut être également une réplique avec collaboration. L'atelier peut avoir contribué, parfois largement. Et on peut avoir comme ça 2, 3, 4 versions qui ont subsisté d'une œuvre, et souvent sans pouvoir clairement dire où se trouve le prototype, où se trouve l'original. Plusieurs musées dans le monde revendiquent la possession de l'original. Et là, c'est querelles et batailles de spécialistes. Tant que vous n'avez pas à vous mettre sous la dent et sous l'œil des documents précis, un pedigree incontestable qui vous permettra d'établir la filiation entre ce prétendu original et une réalité, ça ne marche pas. Vous aurez toujours cette situation-là. Et puis vous tomberez toujours dans le privé en plus sur le collectionneur qui vous dira « Ah, la Joconde, oui, ok, c'est très bien. Okay, oui. Ben, j'ai chez moi l'original dont la copie est au musée. » C'est la formule qui va être employée dans ce cas-là. On le voit. C'est quelquefois vrai. C'est parfois vrai. Émergent des œuvres qu'on voit apparaître d'un coup comme étant vraiment, par leur aspect plastique, le prototype de l'œuvre qu'on connaissait jusqu'alors et qu'il faut bien se décider à entretenir dans son statut d'œuvre fondamentale, prototype, originale. Oui. Pour employer ce pléonasme.
Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une préoccupation tardive, cette préoccupation de l'original?
Parce que si on prend, par exemple,
Georges de la Tour, il y a,
oui.
hein, il y a au moins oui, 7 oui. répliques. Lui, voilà. Ça, au fond, est-ce que ça...
Attends,
ça ne choquait personne.
Vous allez voir. On a parlé d'original autographe, ou de réplique autographe, hein, vous vous en souvenez. On a parlé de réplique autographe. La collaboration, elle a pu être très importante. Pensez qu'une exposition récente consacrée au Bruegel a pu être intitulée l'entreprise Bruegel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une entreprise. N'oublions pas que les peintres sortent d'un long statut artisanal qui est très souvent lié à la corporation des bourreliers celliers et qu'ils étaient taillables et corvéables à merci et que leur travail était un travail banal de mise en peinture. Point. On leur confiait des travaux qui étaient un jour de peindre une vierge à l'enfant, le lendemain de faire une bannière, le surlendemain de faire des costumes pour une fête donnée au château, et le surlendemain d'aller faire un peu de peinture décorative. Il n'y avait pas de peintre décorateur à ce moment-là. C'était les grands peintres ou les peintres moyens qui faisaient de la peinture de chevalet d'un côté. On vivait de ça, tant qu'on pouvait le faire. Un portrait, ce n'est pas négligeable. Ça rapportait de l'argent. Et en accumulant des tableaux comme cela de statues divers, on pouvait, comme cela, subsister dans une pratique. On était affilié à une corporation qui vous défendait, qui avait ses règles. Et ça fonctionnait dans le corps social pleinement. Il n'y avait pas du tout cette notion qui est venue un peu plus tard, à partir du moment où, dès le Quattrocento, ça commence à bouger un peu, puis au XVIe siècle pleinement, et en Italie, puis ensuite ailleurs, le statut de plasticien, le statut de créateur, vous place parce que vous devenez un enjeu important dans les relations entre puissants, et avoir sous la main celui qui est capable de valoriser votre propre état de souverain par le fait qu'il va exécuter pour vous, dont la commande, et l'éclat de la commande rejaillit à la fois sur le plasticien et sur le commanditaire. Et votre statut, à ce moment-là, change profondément. Il ne faut pas rêver. Hein ? Quand on dit Louis XIV pouvait avoir des rapports avec Lebrun, ou avec d'autres artistes, c'est Louis XIV. Mais on a à la même époque des témoignages extrêmement précis qui prouvent que l'entourage du roi et sa famille même, monsieur frère du roi, comme on dit vulgairement, il avait devant lui un peintre du roi qui ne se garait pas assez vite, un coup de pied au cul et c'était parti. Et le bonhomme se taisait et voilà le respect qu'on pouvait avoir. Il ne faut pas rêver hein, sur les rapports entre souverain et plasticien. C'est parce que le puissant le veut bien et le tolère à un moment donné. Donc je viens encore à cela, à vous dire que la commande, il faut l'honorer. Les collaborateurs se forment dans l'atelier. C'est la pratique dans le milieu artisanal qui est constante. Donc on a des gens, parfois des gens qui paient pour être formés, hein, ne pas l'oublier, et parfois fort cher. Et ces gens-là vous aident. Vous êtes dans les tâches quotidiennes, les plus subalternes dans un premier temps. Et le fait que l'on les balade comme cela d'un poste à l'autre dans la gestion de l'image qui appartient en totalité à l'atelier, depuis le broyage des pigments, en passant par la préparation des panneaux, peut-être pas la fabrication des panneaux, qui relève des menuisiers ou de certains corps de métier spécialisés. Chez les Flamands, on a les Tafelmakers, qui sont des gens qui ne font que les panneaux à peindre. Mais parce que le marché est suffisant. Sinon, c'est souvent en atelier que tout cela est géré complètement. Donc il y a une connaissance intime de l'œuvre qui fait que sortant de l'atelier, vous avez, vous, acquis un savoir global où rien ne vous échappe. Vous avez pris des notes, vous allez passer dans un autre atelier, vous allez voir d'autres tours de main. Mais ça faisait des ateliers de 15 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Et puis quand le plasticien, chef d'atelier, a une plus grande réputation et doit honorer des commandes importantes, je pense à ce moment-là à Rubens, qui est quelqu'un qui a des missions multiples. Rubens, il a le malheur, ou le bonheur, hein, on le dira plus tard, d'être à la fois peintre et ambassadeur. On va le missionner pour des relations extérieures entre souverains qui veulent marier leur fille et leur fils. On ne peut pas être à la fois ambassadeur et peintre à plein temps. Regardez les grandes tartines de la galerie de Médicis à Paris, au Louvre. Hein, c'est des grands machins superbes par endroits. Est-ce un plasticien dans son existence entière aurait le temps, seul, avec son petit pinceau, de gérer tout ça? Non. Il a les meilleurs. Il a le spécialiste des paysages, il a le spécialiste des natures mortes. Il a les meilleurs peintres de son temps en collaborateur. Quand il se penche dans sa maison, passant sur la galerie, sur l'atelier qui fonctionne, on a 15 personnes au chevalet qui sont en train, comme cela, de compléter les commandes. Vous savez, Rubens, allez le voir dans les esquisses, avant de le voir autrement. Et là, vous verrez la grandeur de son art. Hein. Ce sont des choses en grisaille, très souvent, mais qui sont d'une expression totale, d'une maîtrise parfaite, qui sont hors du temps par le concentré d'expression plastique qu'il peut y avoir là-dedans. C'est magnifique. Après, les apports peuvent être plus ou moins maladroits sur un Rubens achevé. Hein. Il y a des choses pour lesquelles on peut désigner les mains, clairement. Alors, si la mayonnaise prend, comme on dit vulgairement, c'est un chef-d'œuvre incontestable, ça prend moins. On le considérera quand même un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre mineur. Il y a même une hiérarchie dans les chefs-d'œuvre. Hein. C'est cela. Voilà comment on peut en parler. Donc, oui, pardon.
Une simple question de terminologie. Vous appelez faux, par exemple, va appeler copie.
Attendez, voilà. Voilà. On y vient.
Même le Louvre n'est pas toujours complexé par rapport aux copies. Il présente quelquefois le tableau du maître et à côté des copies. De mains plus ou moins connues, voire totalement inconnues.
Oui, alors peut-être, je vais peut-être vous surprendre. Je veux dire une chose, pour l'expert, il n'y a pas de faux. Le faux n'existe pas. Une notion n'existe pas pour l'expert. Il s'agit de bien nommer. Ce n'est qu'à Camus, mal nommer une chose, c'est d'ajouter au malheur du monde. Et pour l'expert, c'est important. C'est gravissime même. Alors, nommer une chose, dans le cas de dispersion judiciaire, par exemple, quand je vais faire un document d'expertise judiciaire concernant une peinture de chevalet, on va décrire celle-ci. Je vais décrire peinture à l'huile sur toile, sur support ancien repris, portant en exécution tardive, début du XXe siècle, une composition paysage urbain animé dans la manière d'Antonio Canal di Canaletto. École italienne, vénitienne plus précisément, du XVIIIe siècle. Voilà ce que sera. En disant ça, j'ai tout dit. Je l'ai qualifié. Qu'est-ce qui est important? Dater, décrire matériellement et attribuer. Je l'ai attribué à un anonyme du début. Si j'avais un nom à mettre, je le mettrais. Ce n'est pas cela. Le juge, lui, va se servir de ce document pour, précisément, dans son action, qualifier ça de faux. Mais moi, je ne fais que constater la matérialité et décrire l'objet pour ce qu'il est, l'identité propre et interne. C'est frustrant parfois, parce qu'on a envie de tout balader, et qu'on voit quelquefois des procès partir à dos de boudin, alors qu'on aurait bien voulu que ça soit plus stigmatisé. Pour une raison simple, c'est que toujours là-derrière, nous allons retrouver le bonhomme. S'il n'a pas pris la leçon, il va continuer à produire, et on le retrouvera. Et les œuvres qui sont en train de se balader là, une fois saisies, on ne va pas les détruire très souvent. Elles peuvent avoir été prises dans des circonstances particulières, elles peuvent repasser par le biais des domaines, qui leur donneront un aval supplémentaire. Ça a été acquis dans une vente des domaines. Merci. Voilà. C'est cela. Alors, j'en reviens à votre question. Il faut bien savoir que pour un homme du XVIIe siècle, acheter Rubens, c'est acheter le label Rubens. Que l'œuvre soit entièrement autographe ou qu'il y ait une forte proportion de collaboration, on s'en fout. La conception, elle est l'œuvre de Rubens. L'exécution, par nécessité, va être celle que vous connaissez. C'est comme si on reprochait à Serra ou de grands sculpteurs contemporains de ne pas faire tout seul des grands voiles d'acier qui ont 20 mètres de hauteur. Même Vasarely, regardez Vasarely. Bien sûr. Regardez Vasarely. Vous connaissez l'œuvre de Vasarely. Vous voyez son travail. Et vous voyez les tableaux de Vasarely, les peintures de chevalet de Vasarely. Ce sont des trames géométriques qui sont ensuite garnies de zones à la fois en valeur et en variation chromatique permettant d'obtenir des illusions d'optique. Ça veut dire que l'exécution doit en être parfaite. Ça ne marche que si l'aplat est non modulé, s'il n'y a pas de faiblesse, si c'est bien contenu à la limite de la trame géométrique. On doit fonctionner comme une machine. Vasarely a fait des tableaux comme ça. Mais au moment où sa production est très demandée parce que l'art optique et la cinétique sont à la mode, qu'est-ce qui se passe? Il y a chez lui 5 collaborateurs qui sont parmi les meilleurs peintres de l'aplat, capables de faire des choses. Les Grecs avaient, byzantins avaient un terme super pour cela, akeiropoiet, hein, non fait de main d'homme, non touché. C'est ce que veut Vasarely pour l'intérieur de ces zones colorées. Il faut que ça soit fait comme une machine. Et donc, il va demander à ces gens-là, à longueur de journée, sur des trames qui sont comme les jeux d'enfants, ces dessins, vous savez, dans lesquels on a numéroté les couleurs et sur lesquels ils doivent savoir placer le dégradé convenable, de faire cela. Et en fin de semaine, il va dans sa bibliothèque, il va écarter quelques livres, il sort quelques billets et il va payer en liquide les gens qui ont contribué à son travail. Pour les estampes, c'était la même chose. Hein, les sérigraphes, les meilleurs, étaient à son service. On tirait pour lui, c'était normal. Ce qui était plus grave, c'est qu'on signait pour lui aussi, parce qu'il n'avait pas le temps de le faire. Ce qui fait que quelques collaborateurs qui sont devenus aujourd'hui, ils prennent leur retraite, Dieu merci, des professeurs honorables d'École des Beaux-Arts, payaient leurs vacances, leur retour de vacances dans le midi, en vendant quelques estampes surnuméraires. S'ils savaient que, dans la série des numéros 80 à 85, partaient vers l'Allemagne, et que donc ils ne le reverraient pas, ou sauf hasard de succession par extinction biologique exceptionnelle, ça passerait bien après leur mort, eh bien ils faisaient 80 à 85 en doublon, et ça ils le mettaient sur le marché parisien chez des marchands qui acceptaient le jeu, en le cédant à un prix qui était tout à fait raisonnable pour le marchand et raisonnable pour eux, dans leur propre intérêt. Non, c'est... mais non, c'est humain. C'est purement et franchement humain.
Est-ce qu'on peut appeler une œuvre surnuméraire, justement, un faux? Parce que les artistes contemporains, que ce soit en photographie, en vidéo ou en gravure, peuvent aller au-delà d'un tirage limité. Est-ce qu'on appelle ça un faux?
D'abord, se poser d'abord une question globale, qui est de dire, mais voyons, est-ce que dans toutes les civilisations, on considère la copie comme une chose répréhensible? Eh bien, allez voir les Chinois, allez voir les Japonais, les Chinois surtout. Le fait de copier un maître est un hommage rendu à ce maître. Et le degré de perfection que vous allez rendre dans la copie explique justement la stagnation qu'il peut y avoir, qui pour nous est un peu incompréhensible. Quand vous regardez un paysage chinois du XVIe siècle, il a de fortes parentés avec un paysage chinois du XVIIe siècle. Alors que dans la peinture européenne de la même époque, il y a des différences fondamentales. Non, il y a cette différence qui est liée à cela, mais qui est faite de subtilité. D'une copie au maître, il y a des subtilités qui peuvent être des différences, effectivement, que l'œil occidental non éduqué ne perçoit pas. C'est comme les quarts de ton de la musique chinoise, hein, c'est pareil. Vous pouvez passer à côté. On n'avait pas été habitué à entendre cela. Donc, ce n'est pas pour tout le monde répréhensible, la copie. Il y a des copies valorisées. Pour la création contemporaine, il faut savoir que les gens qui ont travaillé fortement, au moins dans le milieu français, sur le statut de la peinture de chevalet, les gens de support surface, que je connais bien, j'ai des rapports intimes avec eux, et on a souvent discuté à l'époque de peinture cahier théorique de ce qui était leur propos. La notion de duplication n'est pas totalement répréhensible. Ça a abouti à une époque à la notion de multiple. La galerie de Denise René à Paris avait cette option de multiples. Ça n'a pas pris sur le marché français pour une bonne raison, c'est que les Français sont bêtement attachés au statut un peu rêveur, un peu post-romantique du créateur seul, isolé, qui crée une œuvre unique et qui serait comme cela dans l'unicum intégral. Non, non, c'est eux le conteste. Et Denis René va effectivement commercialiser des multiples de grands créateurs qui acceptent ce jeu et qui le font pleinement. Et qui le font pleinement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Arthurial va prendre le relais, et va, sur une grande échelle, offrir des multiples, sous une forme même matérielle différenciée. Des tapis Sonia Delaunay, des intérieurs d'assiettes par Armand, des joyeusetés, boutons de manchette et autres, que, à ce moment-là, on peut considérer peut-être comme un peu suspect, mais c'est à voir, c'est de l'art décoratif. Hein, de l'art décoratif. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Quand on étudie la clientèle d'Arthurial, on voit très bien que c'est une clientèle qui est presque totalement étrangère, que pratiquement jamais la clientèle française n'a marché dans le jeu d'Arthurial. Ce qui a entraîné le fait qu'il se soit reconverti dans d'autres activités. Hein. C'est parce qu'une fois le marché extérieur un peu lassé par l'effet de mode des multiples, ça n'a plus clairement fonctionné. Il y a des multiples qui ont été diffusés sur de courts tirages par Denis René ou d'autres qui ont gardé une valeur matérielle certaine. Il y a des gens qui, dans une perspective historique, considéreront que ce sont des raretés. C'est normal, c'est un moment, c'est une phase de la conception du statut de l'œuvre d'art. On ne peut pas l'isoler comme ça. Et donc, pour les gens de Suivre-Surface, le fait d'être reproduit, pas pour tous, n'était pas une chose gênante. On a même la position extrême.
Je me demande si c'est...
Pardon, Andy Warhol. Juste un exemple. Andy Warhol. Oui, Duchamp avant. Duchamp avant. Mais Warhol, lui, qui revendique le fait de fonctionner comme une machine, va avoir cette chose superbe. Il va voir les gens de Vogue, vous savez, cette revue de mode, qui demande régulièrement à des plasticiens ou à des personnages en vue de patronner un numéro. C'est-à-dire qu'on a la griffe du créateur sur un numéro en particulier. Et là, Warhol a une idée, il dit, mais voyons, on va créer une estampe. Vous tirez à 20 000, très bien. Dans le cahier de Vogue, on va avoir un tirage à 20 000 d'une estampe que je vais créer. Et il crée un portrait, bien dans sa manière, hein, à partir des dérives photographiques, de l'acteur Depardieu. Et les numéros sortent. Il est présent. Ça veut dire qu'au moment où l'impression se fait, il est là pour contrôler la qualité technique. Et il sera présent pendant tout le tirage. Ce qui est extrêmement important. Après, l'acte de reproduction est autre chose. Soit on le considère comme valide, soit non. Que ce soit une reproduction photomécanique, on peut l'inclure si dans le propos, il est dit que l'instrument photomécanique fait partie des instruments de création que je choisis. Il faut que l'arsenal des moyens soit ouvert. On ne peut pas reprocher à un plasticien. Mais pour moi, est contemporain aussi bien quelqu'un qui, en 2008, a la technique de Van Eyck et l'applique à des créations personnelles, c'est un autre problème, et quelqu'un qui va utiliser la vidéo comme moyen d'expression, ou une résine synthétique appliquée sur une toile d'avion. Ça ne me gêne absolument pas. C'est ce qu'il en fait qui est important. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de valeur supplémentaire à ajouter à quelqu'un qui voudrait faire un travail dans une logique où il a broyé les mêmes, il a le pinceau en point d'écureuil et la plume au chapeau, pourquoi pas, pour faire époque. Degas disait ça. Je ne vais pas me mettre une plume, un chapeau à plume comme Del Sarto pour aller faire ma peinture. Hein. Donc, voilà où ça doit se situer. Et ça a eu du succès. Cette estampe Depardieu par Warhol, elle est considérée comme une estampe originale. Et ça, bien entendu, ça fait grincer les dents des tenants de l'estampe originale qui sont les plus traditionnels. Pas toujours. Il faut s'habituer à cela. Alors quand l'estampe vient se mêler à la peinture de chevalet pour aboutir à des œuvres qui sont des œuvres de complexité technique, qui font que pour évacuer le problème descriptif, on dit mixed media, technique mixte. Moi, je veux bien une technique mixte, mais après, deux points, et je décris les techniques qui sont en place. Et il faut le faire, parce que ça peut aider à saisir, et parce qu'on a des choses comme cela à voir. Et là, vous ferez agir le laboratoire sur tel ou tel point important, tel point de la chose. Après cela, dernière nouvelle du front, quand même, est récente, hein, puisqu'on est en début janvier, là. En Angleterre, une famille, Greenalg, le père, 80 et quelques années, la mère, le même âge, et le fils, une quarantaine d'années. C'est pas là, hein, je vous rassure, c'est pas cette image-là. Que se passe-t-il ? Ces gens-là ont pendant des décennies produit des faux de très haut niveau. Ce qui veut dire que des céramiques de leurs mains sont dans les musées américains, qu'il y a un plat d'orfèvrerie de type romain qui se trouve dans des musées anglais, c'est épouvantable. Ça révèle le fait qu'on a affaire à des gens qui sont extrêmement perfectionnistes. L'argent qu'ils gagnent, on ne sait pas ce qu'ils en font. Puis ils sont toujours dans le petit cottage de dimension modeste et sans effet ostentatoire. Et là, on peut se poser justement ce qui est la question, ce qui est la motivation qui peut apparaître chez un faussaire. Il peut y avoir l'esprit de lucre. Mais vous constaterez une chose, c'est que l'esprit de lucre, il va se manifester au niveau de ceux qui commercialisent le faux. Très souvent, le faussaire est sous-payé. Lui, que cherche-t-il ? Il cherche une reconnaissance qui va être valorisante pour son ego, qui fait dire, voyez, on ne sait pas que c'est moi, et ça, c'est ce qui va être le plus terrible pour les faussaires, ce qui très souvent les a amenés à se dévoiler, c'est qu'à un point donné, ils savent qu'ils ont trompé tout le monde, mais ils sont les seuls à le savoir. Et ça, c'est insupportable. Ce sont souvent des peintres, je ne dis pas ratés, parce qu'ils ont des talents, mais des peintres dont le travail n'a pas été reconnu. Van Meulen est un peintre dont le travail n'a pas été reconnu. On a exposé récemment, parce qu'on ose le faire, des tableaux originaux de Van Meulen pour montrer ce qu'était sa production. C'est du Mussolinien un peu grandiloquent de l'entre-deux-guerres. C'est rien de majeur, rien de magique. Bien sûr. Mais, vous savez, l'important pour le faussaire est de fixer un but le plus haut possible. Et de parvenir à conquérir cela. C'est-à-dire à avoir, par les moyens qu'il met en œuvre dans l'expression artistique, réussi à tromper les experts, les conservateurs, les amateurs, les connaisseurs, hein. C'est les amateurs, il y a les connaisseurs qu'on peut mettre à égalité, sinon à niveau supérieur par rapport aux experts. Et donc c'est cela, c'est gratifiant pour le faussaire. Il va avoir cette reconnaissance, mais qu'il ne peut pas revendiquer. Et ça explose, à un moment donné, ça explose.
Pardon, monsieur.
Ils sont prisonniers de demande aussi. Il faut savoir que quand c'est rentable, la personne qui les a commandités les tient. Parce qu'il peut toujours avoir une dénonciation anonyme et la menace d'une dénonciation anonyme. Donc ils produisent à bas prix, ils sont prisonniers de cela. Mais ils sont d'autant plus intéressants pour nous qu'ils sont des faussaires monographiques. Il y avait...
Est-ce qu'un faussaire oui. a une propre sensibilité, d'après vous ? Ou alors, est-ce un parfait technicien ? Ou
écoutez,
a-t-il vraiment une sensibilité ?
Quand il réussit, quand il y parvient, il a au moins assez de sensibilité pour parvenir à saisir ce qu'il y a de sensible dans l'œuvre d'autrui et pouvoir le rendre de manière convaincante. Donc c'est déjà une belle preuve de sensibilité. Le reste, après, c'était purement technique et seulement cela, ça ne passerait pas, la grille. Ça veut dire qu'il faut vraiment, à un moment donné, passer le miroir et aller de l'autre côté pour être dans l'esprit et dans le corps du plasticien. Et ça, c'est redoutable. Parce qu'on peut, ne pas en revenir. J'entends par là qu'on peut, à ce moment-là, céder au mimétisme et être tout d'un coup en train de s'habiller comme le personnage, vivre comme lui, essayer d'avoir une vie quotidienne calquée sur la sienne. Ça peut être ça. On est à la frange, de la folie constamment dans ces affaires-là. Mais c'est une folie rentable pour beaucoup de monde. Donc on la tolère ouverte. Oui ? Pardon.
Est-ce que le faussaire n'a pas un manque d'imagination ?
Ah ! Un manque d'imagination. C'est question de degré. Voilà, parce que quand on parle de copie, ou quand on parle de faux, c'est-à-dire la conséquence juridique de l'acte de copie, par une action répréhensible qui consiste à faire passer pour vrai ce qui ne l'est pas. Il y a des degrés. Vous avez des gens sans imagination qui font des faux totalement semblables à l'original. C'est-à-dire des faux à l'identique. Et ils se contenteront de copier une œuvre connue. Si possible, d'aller chercher dans les 36e dessous en se documentant pour que l'œuvre d'une collection privée, pas trop photographiée, leur serve de modèle. Vous avez ceux qui agissent différemment, qui, eux, ont un peu plus de certitude et vont faire ce qu'on appelle des faux patchwork. C'est-à-dire que pour un maître donné qu'ils copient, ils vont prendre un morceau dans tel tableau, un morceau dans tel autre, un morceau dans un troisième, ils vont réunir ça, et bien évidemment, sans qu'on ne puisse mettre en évidence un modèle total, global, on a un esprit général qui se manifeste en cela, sauf que l'érudit ou le connaisseur à côté va immédiatement reconnaître les citations. Souvenez-vous d'Attiard de Salita Farnèse tout à l'heure, hein, où on disait c'est un morceau de Sèvres, c'est un morceau romain de telle époque, c'est le jeu. C'est ce qui nous sert beaucoup. Vous savez, l'instrument principal de l'expert, du conservateur ou de l'amateur d'art, c'est la mémoire visuelle. Elle devait fonctionner comme une machine à un moment donné. Une machine engrange. Elle établit des classifications. Et pendant que vous regardez l'objet, vous avez l'impression de déjà vu qui se produit, ça scanne toujours, ou ça émerge. Ça peut mettre un mois pour émerger. Vous dites, c'est ça, je le tiens, vous ne pouvez pas formuler. Et à ce moment-là, tout d'un coup, vous êtes en train de consulter un bouquin tout à fait autre, et ça vient, ça y est, c'est lui. Hop, et là, vous pouvez rédiger votre certificat en bonne connaissance. Ça peut ne pas émerger du tout. Si, c'est... Et pourtant, vous savez que vous l'avez vu. Mais ça représente des banques de milliers et de milliers d'images vues. Ce qu'on peut en mémoriser. Ce n'est pas toujours simple. Alors, j'en reviens à votre propos. Il y en a des gens qui fonctionnent avec ça. Et puis, on a le faussaire supérieur qui, lui, a assimilé la manière. Il connaît suffisamment tout cela, à la fois dans les thèmes iconographiques, dans l'expression plastique, dans l'expression technique, pour, de manière convaincante, en établir une symbiose qui sera, si elle veut être convaincante, pleinement unitaire. Je veux dire par là que ce qui, très souvent, va nous permettre de déceler la présence d'un faux par rapport à un artiste connu dont on reproduirait l'œuvre, c'est la chose suivante. C'est que le faussaire analyse. Il analyse, donc il va scander les éléments de réponse qu'il vous fournit. Il répond par la couleur, il répond par le dessin, il répond par la matière. Mais il le fait très souvent sans être capable, et pour cause, il n'a pas l'expérience de durée qui a permis au créateur d'assimiler tout cela et d'en faire une restitution totale. Je vous donne un exemple précis. Ce sont les œuvres, les faux Van Gogh. Sur un faux Van Gogh, même un peu trompeur, chez Van Gogh, vous avez la matière qui est superbe. Et vous avez surtout une chose qui est extraordinaire, c'est que chez Van Gogh, tout naît en liaison. Le dessin, la forme, la matière et la couleur sont liés de manière indissociable. Et ça vient d'une espèce de donnée compacte qui va immédiatement fournir la toile. Et ça, le faussaire n'y arrive pas. Sauf à avoir un cheminement comparable. Alors, je vous donne un exemple précis. On a, pendant des années, poursuivi un faussaire qui était basé à La Rochelle. Il ne faisait que des dessins de Matisse. C'est un bonhomme qui avait commencé, 20 ans avant, avec des calques sur des photographies de dessins originaux, au format original. Et avec le fusain, avec la plume, l'encre de Chine, il s'entraînait. Et à longueur de journée, il s'entraînait. Jusqu'à ce que le ductus, la trace spontanée, comme ça, de l'écriture, lui vienne, et que se levant, allant à la table de travail, il ait nécessairement dans la main ce qui était l'habitude. Il y a des paramètres nombreux qui interviennent chez un faussaire. On ne parle jamais des paramètres biologiques, mais ils sont importants. La souplesse du poignet, la longueur de la main, les doigts, c'est différent d'un individu à l'autre. Ça peut avoir une incidence sur la touche, sur la manière de la poser, sur le rythme même. Donc c'est tout cela qu'il faut parvenir à assimiler, analyser, et ensuite pouvoir contenir tout cela, voir aboutir à la contrainte pour qu'il sorte de vous quelque chose qui appartient à une autre personnalité, apparemment. C'est ce qui est le plus difficile. Et un faussaire monographique peut y parvenir. Parce qu'il n'est consacré de manière obsessionnelle qu'à cela. Et là, c'est redoutable. Surtout s'il peut œuvrer avec des matériaux qui correspondent aux matériaux employés sur le temps prétendu de la création. L'autre point qui est important que j'évoquais tout à l'heure avec vous est le suivant. Si je vous disais, on peut tout faire parler avec le laboratoire actuellement, pour ce qui est de la peinture ancienne, c'est-à-dire antérieure à 1900. Je ne vous ai pas dit ce qui est après. Ce qui est après, les matériaux sont disponibles. On peut trouver du papier employé par Matisse, on peut trouver les crayons, les fusains, les plumes, voire des flacons d'encre non utilisés. Tout ça, il suffit d'être attentif et vous le trouvez. Et là, le laboratoire n'y peut rien, parce que le laboratoire n'a pas la finesse suffisante pour vous dire à quel moment tout ceci a été mis ensemble. Surtout si on a affaire à quelqu'un d'habile qui va ensuite, par de l'infrarouge, par de l'ultraviolet, provoquer des vieillissements naturels sur les matériaux de l'encre ou des choses comme cela, qui quelque abrasion, quelque frottement. C'est imparable, imparable. Et là, vous pouvez mettre n'importe quel laboratoire en route, y compris le plus sophistiqué. Ce que je voulais vous dire, c'est que les moyens scientifiques à la disposition de l'expert habituellement sont extrêmement réduits. Que fait un expert de manière courante? Il va éventuellement, avec une caméra vidéo infrarouge, faire un peu d'infrarouge pour déceler des traces, des dessins sous-jacents ou des traces d'écriture un peu effacées. Ça, c'est dans la technique actuelle faisable. Il pourra faire des examens en fluorescence ultraviolet, en lumière rasante, en lumière à vapeur de sodium, pour faire éteindre la couleur et voir les défauts du dessin. Tout ça, on peut le faire avec des moyens simples d'expertise. Mais dès lors que vous entrez dans le domaine de la spectrométrie, de la spectrographie, de la sonde, de la microsonde électronique à effet Raman, voire du scanner, quel expert peut s'offrir un scanner pour expertiser de temps en temps une sculpture médiévale? D'abord, il faut avoir le spécialiste qui est capable de faire marcher la machine, de lire les résultats, d'interpréter. Et c'est, le problème est là. Alors, on se voit à la fois optimiste parce qu'on sait qu'au niveau d'un laboratoire national, ça ne peut être qu'au niveau d'un laboratoire national, on a les moyens de déceler les faux et de manière extrêmement nette pour la période que j'évoquais. Mais quel expert peut s'équiper comme cela? Il y a quelques laboratoires privés qui le font, mais qui sont loin d'avoir l'instrumentation exhaustive que j'évoquais tout à l'heure, qui permettait d'empêcher de passer à travers le crible la plupart des œuvres, sinon la totalité des œuvres. Ça coûte trop cher. Vous pourriez avoir un accélérateur de particules comme Aglaé à votre service personnel.
Il y a l'examen stylistique qui, lui, être fait par des instruments scientifiques.
Si.
Ah bon?
Si. Et oui, parce que vous oubliez un domaine de progrès qui est extrêmement important, c'est la digitalisation et la numérisation de l'image. Or, on vient de mettre au point, c'est récent, c'est de deux jours, on a les résultats, on vient de mettre au point un logiciel qui aide à l'authentification en étudiant sur des séries d'œuvres attestées d'un maître donné la manière de traiter des détails comparables. Et ça me rassure fortement, parce que on appelle ça la méthode morélienne. C'est vieux comme Morelli, c'est-à-dire que ça appartient au 19e siècle, à Charmière même. Et Morelli disait, il avait publié autour de cela, il disait, mais pour avancer là-dedans, comparez ce qui est comparable. Si vous voulez, si vous avez un portrait à étudier, allez voir des portraits attestés du maître, regardez comment l'œil est fait, regardez comment la chevelure ça raccorde avec la peau du front, il va y avoir des constantes techniques et esthétiques qui vont parler. Et c'est ici qu'ils vont parler. La machine fait cela avec une rapidité de comparaison qui est bien au-delà de nos capacités humaines. Mais j'ai toujours fonctionné comme cela. Pour moi, quand on me présentait une chose qui était attribuée à Greuze, je commençais par regarder ce que j'évoquais tout à l'heure, la coloration intérieure de l'ombre du nez. Je regardais également la manière dont la chevelure se raccordait sur les carnations. Je regardais également la manière dont l'œil était traité. Et si j'avais déjà sur ces trois points des choses qui étaient favorables, je pouvais commencer à m'engager. Je ne l'aurais pas fait. Certains confrères me disaient, mais tu es morélien en diable. Ben oui, peut-être. Il se trouve que le dernier logiciel qui paraît bien fonctionner est morélien, lui, en accéléré peut-être, mais à notre service, enfin. Moi, je suis très heureux. Encore faut-il disposer de la banque d'images attestées permettant d'établir des comparaisons. Si votre corpus de référence est erroné, ça ne sert à rien.
Et puisque vous êtes arrivé au XXe siècle, oui, avec Vasarely,
oui,
Picasso.
Oui.
Picasso a fait tout lui-même, mais pas, non.
Oh oui, beaucoup de choses. Dans l'estampe, il s'est fait aider.
Voilà.
Mais la linogravure, par exemple, il est bien certain qu'il a été fortement aidé par la personne qui l'a initié à la linogravure. J'allais souvent chez Mourlot à Paris. Chez Mourlot, j'ai rencontré la dernière épouse de Picasso qui venait faire des lithos de son travail. J'ai parlé avec elle de Picasso. J'ai parlé avec les ouvriers de Mourlot de Picasso présents dans l'atelier. Il était certain que j'ai rencontré Deschamps, qui, quand j'ai rencontré, avait 85 ans, qui était le lithographe qui tenait la main de Picasso pour des problèmes insolubles, pour un praticien même un peu chevronné. C'était un grobiste, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme un scanner humain, analysait un tableau ou une gouache de Picasso et la traduisait en sélection de couleurs. Et il faisait ça manuellement. Et Picasso était époustouflé, tellement qu'il avait donné à Deschamps le droit, pour les affiches qui sortaient de chez Mourlot, de signer Deschamps, L-I-T-H, lithographe, à côté de son nom, de sa signature rapportée, intégrée. Donc là, oui, mais nécessairement. Des signatures de gravure, vous ne maîtrisez pas tout. Quand il y a 5-6 passages à faire avec des repérages époustouflants, et que vous devez analyser votre propre travail pour être en superposition convenable, c'est inhumain si vous n'êtes pas un technicien de la chose. C'est bien certain. Oui. D'accord. Donc c'était un panorama peut-être un peu rapide. S'il y a quelques questions encore à me poser, oui.
Par Rembrandt.
Oui.
Bien. La restauration du château de Versailles.
La restauration du château de Versailles, elle a révélé bien des choses. Parce qu'avant restauration, il y a toujours analyse. Et vous savez que la tendance actuelle est plutôt que la restauration, de privilégier la conservation. Or, la conservation, cela signifie connaître parfaitement l'état des lieux pour pouvoir porter un diagnostic et avoir des opérations de conservation bien motivées. Ça a montré, la restauration de la galerie des glaces, ça a montré que dans certaines parties hautes, l'on croyait avoir affaire à des matériaux nobles, on avait du carton-pierre ou des trucs comme ça, avec beaucoup d'ersatz, de joyeuseté décorative, mais ça s'est fait partout. Vous allez à Sans Souci, à côté de Berlin, vous avez des choses en carton-pierre que tout le monde croyait être des sculptures. Il y a des effets décoratifs. Dès lors qu'on s'éloigne du sol et de la vision directe, il y avait une technique, vous savez, au 18e, il s'appelait le salidor. Quand on avait une belle rosace au plafond et qu'on voulait la décorer or sur fond clair, on se disait, mais voyons, est-ce qu'on va mettre de la feuille d'or alors qu'on est à 5 mètres ou 6 mètres sous plafond? Personne n'ira mettre les dessus, sauf ceux qui vont nettoyer les lustres, et encore, on les descendait avec un système de poulies. Donc, on va faire un salidor. On peignait à l'ocre jaune, d'un ton or, un peu calculé, l'ensemble du motif décoratif. Et ensuite, au mordant, on posait de la feuille d'or sur les parties saillantes. Et une fois que la lumière venait et la distance était établie, tout le monde croyait que le motif entier était en or. C'est de bonne guerre. La restauration, elle est intéressante parce qu'elle a été faite convenablement. La restauration des miroirs, Vincent Guerre, que je connais bien, c'est quelqu'un qui est très honnête et très sérieux. Il a été formé par son père dans le miroir déjà, et donc ça va. Il avait dans son atelier, son père avait dans son atelier un meilleur ouvrier de France en matière d'encadrement et de dorure. Donc il y a eu une traduction technique là qui est certaine. Il est expert, mais pour de bonnes raisons. C'est qu'il a une connaissance technique. Vous savez, comment est-ce que je suis venu à l'expertise? J'ai d'abord été restaurateur pour les musées. Je n'en ai pas parlé au tout début, mais mon métier a été restaurateur. En même temps que je suis vieux. Voilà. Je suis vieux. Non. Non. Mais je... Voilà. Par contre, j'ai été formé par un expert que je ne nommerai pas pour respecter sa mémoire, mais vous allez voir, c'est amusant. Il était jeune restaurateur, et pour pouvoir subsister, c'était avant et pendant la guerre, il copiait un maître particulier de l'école provençale qui était fort à l'honneur à ce moment-là. Et il faisait des faux sur panneaux de bois tout à fait convaincants. Et puis, c'est un bonhomme qui a évolué professionnellement, et qui est devenu expert du peintre en question, et est venu le moment redoutable de rédiger le catalogue raisonné de l'œuvre du peintre en question. Alors avec son bel accent marseillais, il me disait, petit, je suis terrorisé, parce que voilà, tout ce que j'ai fait, je sais où c'est, on m'a demandé de l'expertiser. Alors je dis toujours aux gens, ça paraîtra dans le supplément. Mais étant bien persuadé que le supplément, il n'y en aurait pas, il me dit, après ma mort, on fera ce qu'on voudra, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Il faut bien savoir que des casseroles comme ça, on peut en avoir. Est-ce qu'on se trompe? On vous posera la question, mais quel est le meilleur expert, au fait? C'est celui qui se trompe le moins. Voilà, une définition. Berenson, qui était un bon expert et bon connaisseur, quoi qu'on ait pu en dire, de la peinture primitive italienne, avait ceci. Et ça, croyez-moi... Dans l'armoire où je range mes costumes, il y a une photographie de Berenson avec cette formule au-dessus. Comme ça, quand j'ouvre l'armoire quotidiennement, ça me rappelle des choses. Expert veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui sait quelque chose de la matière dont il parle. Cela est vrai dans tous les domaines, sauf celui de l'art. Voilà, je pense que ça... Venant de Berenson lui-même, c'est clair. C'est clair.
Est-ce qu'il y a encore une question? Ah oui, là.
Oui, alors maintenant on est au 21e siècle et l'art a d'autres formes. À savoir, il y a des choses comme l'événementiel. Comment on fait pour authentifier une création événementielle et l'expertiser, enfin avoir le même genre de débat, ou sur des œuvres conceptuelles, par exemple, où il suffit juste d'énoncer une œuvre pour se rendre compte de son intérêt.
C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je vous dis pourquoi.
Je me doute bien que ma question est embarrassante.
J'ai fait partie de l'équipe qui a vendu en vente publique la première œuvre virtuelle, celle de Fred Forrest, qui a été mise sur le marché il y a peut-être 12 ans au moins, 12 ans au moins, et qui posait des problèmes dont j'avais à jouer le rôle de l'expert. J'avais comme avocat du diable Jean-Marie Schmitt, qui est le juriste qui tient la chronique juridique dans le Journal des Arts, et qui est juriste de profession. Et on avait des problèmes pour la définition du statut de ces œuvres-là. Et on les a toujours. Ça ne s'établira que progressivement. De la même manière que l'art contemporain pose des problèmes majeurs de restauration et de conservation, parce qu'on est dans l'ignorance la plus absolue. J'ai été, j'ose pas le dire, le conseiller technique du FRAC, quand le FRAC de Languedoc-Roussillon, quand le FRAC de Languedoc-Roussillon, je suis mon méridional, j'exagère en peine, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est créé. Bon, c'était pour mettre la chose en place, on est bien d'accord. Mais ce qui me faisait le plus défaut, c'était les fiches techniques. On avait presque songé à faire établir une clause d'acquisition qui disait « Si vous ne fournissez pas une fiche technique claire, on n'achète pas l'œuvre. » Voilà, ce qui était quand même un peu convenable. Alors là, très franchement, j'ai vu les attitudes les plus invraisemblables de la part des plasticiens émerger. Certains se sont réfugiés derrière le secret de fabrication. Il faut le faire, hein, au XXe siècle. Dire « Ah non, mais je n'ai pas envie que mes confrères sachent comment c'est fait. » C'est un truc. Alors, savoir que sa propre identité tient à un truc, c'est gênant. C'est gênant. Bon, c'était ponctuel. On est bien d'accord là-dessus. Mais nous, ça nous posait des problèmes de conservation. Ce qui fait que très souvent, quand on le pouvait, et on est à la limite même de la déontologie, on demandait au plasticien de venir restaurer lui-même. Quand Deuzeuse me dit, parce qu'on venait de faire restaurer à grands frais un de ses treillages, je me dis, écoute, maintenant tu m'embêtes avec tes problèmes de treillage, ça casse constamment. Je vais te donner 20 mètres du champ de bois qui m'a servi à fabriquer le truc. Quand ça casse, tu agrafes et tu répares. Je lui dis, très bien, mais tu me signes un papier. Voilà, de manière que ce soit légitime, que ce ne soit pas attribué à une fantaisie du conseiller. Pour Pagès, il est venu restaurer lui-même. Pour Buraglio, on a eu un problème. Buraglio lui-même avait utilisé dans une œuvre un fragment d'un poste en verre coloré d'un bâtiment bordelais qui avait été détruit. Le verre avait été cassé dans un transport. Que faire? Trouver un verre martelé coloré en mauve à l'identique, ce n'était pas du tout évident. Et lui voulait avoir cela. Et c'est resté en attente. C'est resté en attente pendant des années avant que Buraglio ne parvienne à trouver le morceau. C'est pas toujours facile. Toujours. Il y a toujours eu des gens qui ont eu assez d'audace pour prétendre savoir quelque chose dans ce domaine. Donc ça, c'est vieux comme l'antique, c'est-à-dire vieux comme le moment où il a fallu, dans le monde romain par exemple, lors de ces auctions, hein, qui étaient les ventes publiques, avec l'équivalent de nos commissaires priseurs, intervenir là-dedans. Il y avait des gens qui étaient chargés de cela. Pour les collections royales, ce sont les grands peintres, premiers peintres du roi, qui, par leur connaissance, ont très souvent été les conseillers. Ils étaient à la fois les restaurateurs, c'est eux qui intervenaient, les premiers peintres du roi, qui intervenaient pour la restauration des œuvres, avec les méthodes draconiennes qu'on peut supposer. Ils pouvaient consister à repeindre fortement l'œuvre d'un rival qu'on n'appréciait pas beaucoup.
Oui.
Oui. Eh bien, vous savez, le temps est passé là-dessus et que les polémiques sont un peu éteintes, encore que, il faut bien voir ce qu'a été la qualité du travail de Buren sur le lieu sur lequel il avait à intervenir. Il faut voir les plans préalables, il faut voir tous les dossiers de recherche, il faut voir les calculs de gravité, de circulation des eaux, d'évacuation, d'émergence de colonnes, de degrés au centième de millimètre près d'émergence de ces colonnes-là, les problèmes techniques posés par les incrustations. C'est un truc qui est extrêmement pensé, fait pour des circulations préférentielles et qui progressivement, parce qu'il y avait une maintenance, et on a oublié la maintenance autour des colonnes de Buren, on a oublié de dire qu'il y avait des circulations d'eau, d'évacuation, des pérégrinations autour des œuvres qui s'imposaient. Malheureusement, il fallait entretenir tout cela. Donc on le fait maintenant, enfin le vœu était mis, ça paraît devoir se manifester.
Qu'auriez-vous pensé en tant qu'expert et commissaire, etc., qu'auriez-vous pensé si on n'avait pas restauré cette œuvre de Buren qui a été une commande publique? C'est ça.
C'était criminel.
Parce qu'il y a une énorme polémique là-dessus, le devoir de commande
implique le devoir de reconnaissance et de sauvegarde, de conservation.
Alors voilà, je voulais vous l'entendre dire.
Bien sûr.
C'est très important.
On nous a fait signer des pétitions,
nous, en tant qu'artistes, oui, pour être contre cette.
Ça a été le cas pour certaines pièces de Dubuffet qui ont été massacrées parce qu'à un moment donné, on considérait qu'elles étaient agressives ou qu'elles ne convenaient pas dans le lieu. On ne peut pas s'arroger ce droit. Et là, ces revendications juridiques, au-delà d'actes de vandalisme, sont bien maigres, hélas. On n'ose pas trop y toucher parce que le politique est là-dedans. Et que l'élu qui a laissé faire cette chose-là et qui voit tout d'un coup que la presse nationale s'en empare, et il n'est pas très à l'aise. Donc on préfère tout étouffer. Mais j'aurais des cas à vous citer par... Voilà. Et alors là, c'est le rôle du... C'est l'expert toréador. C'est-à-dire que vous allez essayer, hein, par des mouvements divers, d'éviter d'être nommé expert dans des cas semblables. Voilà, c'est le dernier côté méridional.
Voilà, il y a encore des questions? Je sais pas. On va.
Oui. J'aime bien établir des parallèles entre les arts et j'aurais voulu savoir ce qu'aurait pu nous dire Jean Boschko à propos du faux en littérature, s'il avait quelque chose à dire à ce sujet-là, parce que bon, Jean a une culture littéraire énorme et j'aurais voulu établir, donc est-ce que tu pourrais faire quelque chose là, établir un parallèle entre le faux en littérature et le faux en art plastique?
C'est un piège. Effectivement, je suis assez féru en littérature et spécialiste du faux. Donc, c'est bien. Merci. Je voulais pas que ça se sache dans la région. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça avec la bière et l'abbaye du Jouir, etc. Vous savez. Donc voilà. Donc. En tout cas, non, mais ça risque de prolonger la soirée. Ça risque de prolonger la soirée. Donc, ça risque de prolonger la soirée. Et puis, ça pourrait être le sujet d'une autre conférence à laquelle, moi, je me prêterai pas parce que je suis un menteur. Je connais pas grand-chose ou très peu sur le sujet. Mais on pourrait très bien inviter quelqu'un. Pour venir parler de ça. Merci Jacques d'avoir soulevé le. Voilà. Donc. Oui, vas-y.
Je vais être totalement immodeste et un peu bloquer la parole encore. J'ai oublié. Je vous avais parlé de trois pôles. Hein, c'était celui de l'expertise, celui de la conservation, celui de la création. Si j'ai eu l'audace de parler de création contemporaine, c'est parce que j'ai une création personnelle. On ne va pas la juger. Là, c'est pas le propos. Mais vous allez voir de quelle manière elle se situe. Il y a combien de 2-3 ans, un ami qui est organisateur, parce qu'il est ingénieur culturel, vous savez ce beau titre là, il est responsable d'une manifestation qui est consacrée à la mémoire de Jean-Henri Fabre, le naturaliste, l'homère des insectes, hein, que vous avez entendu parler. Et il me dit, voilà, on va avoir quelque chose d'un peu ennuyeux. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un pouvant te faire quelque chose d'un peu contemporain, un peu ludique, autour de la personnalité de Fabre? Et là, j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. J'ai dit, mais je vais te faire quelque chose. Bon, alors, faire quelque chose, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait entrer dans le jeu. Et en tant qu'expert, je ne donnais qu'une solution, c'est-à-dire faire quelque chose de faux. C'était libérateur. Hein, cette, vous savez, on se sent un peu, en termes de carrière, comme une sorte de caméléon fatigué, à avoir vu beaucoup de choses. Donc, ça devenait utile. Et je me suis dit, puisque donc le Fabre s'intéressait aux insectes, pourquoi ne pas créer une entomologie parallèle? Comme il y a eu par Livy une botanique parallèle, et le principe de l'exposition a été le suivant. Je vous lis le protocole rapidement, vous allez voir, vous allez comprendre. En 2001, lors d'importants travaux de réhabilitation effectués au sein de l'ARMAS, domaine et laboratoire de l'entomologiste Jean-Henri Fabre, les ouvriers découvrirent au sous-sol de l'édifice principal une ouverture murée. Dégagée, celle-ci révéla une grande pièce, aux murs garnis de rayonnages, de vitrines et de cadres contenant d'étranges documents. S'agissait-il de l'ARMAS II, le mythique laboratoire caché des fameux chercheurs? La trouvaille, encore à l'étude aujourd'hui, paraît être cohérente. Elle comprend des représentations d'insectes à ce jour inconnus, une accumulation d'objets divers, pièces de fouilles, tableaux, instruments scientifiques, montrant que Fabre, secrètement, s'est très tôt intéressé aux histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, et particulièrement au thème du scarabée d'or. Cherche-t-il à réunir des preuves de son existence, de scarabée d'or, regroupant ainsi des documents témoins appartenant à différentes époques? C'est une partie infime de cet ensemble que nous présentons ici, JPR, pour le Centre international d'entomologie parallèle. Voilà. Alors, il y avait quoi? Il y avait des insectes. Vous regarderez le catalogue, vous verrez à l'intérieur ce qu'il y a. Et vous allez voir qu'il y a à l'intérieur... Je pense le trouver rapidement. Pardon. Voilà. La puce géante de Mengele. Vous connaissez Mengele, Alberto, l'écrivain. Alors, retrouvée par l'écrivain Alberto Mengele, cette puce qui vivait dans les salles des British Museum était redoutée pour sa férocité et le caractère dangereux de ses piqûres. Notez la présence d'appendices en forme de loupe et de pince, ainsi que le suspoir en forme de plume à écrire. Alors, vous pensez bien que l'idée a ravi Mengele, donc on est parti là-dessus. On a fait une puce de Mengele. Alors, je ne l'ai pas parce que l'original appartient à Alberto, mais vous allez voir. Voilà, terrible puce de Mengele, n'est-ce pas? Elle est sur un document ancien, bien entendu, et elle présente les caractères horribles d'un insecte qui, de grande taille, pouvait terroriser les lecteurs. Vous voyez comment est une légende, comment on peut s'introduire dans ce propos. Et Dürer lui-même n'était pas oublié, puisque j'avais gravé parallèlement son rhinocéros en contemplation, hommage peut-être, devant le scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Donc tout part comme ça, c'est-à-dire des objets complètement bidons, tout est faux, tellement faux que dans le lieu où ça s'est tenu, le propriétaire des lieux, c'est une sorte de palais du facteur cheval assez extraordinaire qui s'appelle la Villa sans regard. Deux jours après l'ouverture de l'exposition, le propriétaire des lieux voit arriver trois personnages à visage austère qui lui disent « Monsieur, nous venons, voilà, nous sommes les héritiers descendants directs de Jean-Henri Fabre, voici notre conseil juridique ». Nous revendiquons la propriété des pièces qui ont été découvertes dans la masse. Vous imaginez quel a pu être mon bonheur? Je me roulais par terre de voir que ça avait fonctionné comme ça. Voilà. Je suis désolé d'avoir pris votre temps, mais il fallait bien parler. Voilà. Il me fallait bien ça pour me rassurer.